devoirs de compréhension orale. Préparez-vous au devoir numéro 1. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir.
Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'Arc de Triomphe qui a été impacté par deux artistes qui sont malheureusement décédés avant même de voir la consécration de leur œuvre d'art. Il s'agit de Christo et Jeanne-Claude. De leur vivant, ils avaient imaginé ce projet qui a mis des années et des années à se mettre en place. Et donc, ce week-end, c'était la fin de 3 semaines pendant lesquelles l'Arc de Triomphe a été impacté et la place de l'Étoile a été fermée à la circulation. Donc moi, j'y suis allée avec ma fille. J'ai trouvé ça à la fois impressionnant. Je trouvais que le bâtiment était, le monument plus exactement, était encore plus grand qu'à l'accoutumée. Et puis le fait que la place de l'Étoile, qui est quand même une place où il y a tout le temps des voitures qui passent jour et nuit, le fait que ce soit fermé à la circulation, rendait la visite encore plus sympathique et touchante. Ce que j'ai aimé dans leur démarche, c'est le fait que quand on regardait un petit peu, quand on lisait les interviews, tout le matériel utilisé provenait de plastique recyclé, et en fait tout le matériel sera recyclé par la suite, donc pas de gaspillage, ce qui correspond quand même à ce que certains critiques mettaient en avant. J'avais lu aussi quelque chose qui me paraissait intéressant, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, j'avais lu ça dans un article, qui disait que, en fait, leur démarche artistique consistait à cacher un monument de telle sorte que quand il était révélé à nouveau quelques semaines plus tard, les touristes avaient un nouveau regard et redécouvraient le monument, en voyant à nouveau des détails qu'on ne voyait pas forcément en passant à côté. Voilà, et puis le fait que ce soit une œuvre d'art éphémère, je trouve, donne encore plus de mystère et de fascination à cet événement.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir.
Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'Arc de Triomphe qui a été impacté par deux artistes qui sont malheureusement décédés avant même de voir la consécration de leur œuvre d'art. Il s'agit de Christo et Jeanne-Claude. De leur vivant, ils avaient imaginé ce projet qui a mis des années à se mettre en place. Et donc, ce week-end, c'était la fin de 3 semaines pendant lesquelles l'Arc de Triomphe a été impacté et la place de l'Étoile a été fermée à la circulation. Donc moi, j'y suis allée avec ma fille. J'ai trouvé ça à la fois impressionnant. Je trouvais que le bâtiment était, le monument plus exactement, était encore plus grand qu'à l'accoutumée. Et puis le fait que la place de l'Étoile, qui est quand même une place où il y a tout le temps des voitures qui passent jour et nuit, le fait que ce soit fermé à la circulation, rendait la visite encore plus sympathique et touchante. Ce que j'ai aimé dans leur démarche, c'est le fait que quand on regardait un petit peu, quand on lisait les interviews, tout le matériel utilisé provenait de plastique recyclé, et en fait tout le matériel sera recyclé par la suite, donc pas de gaspillage, ce qui correspond quand même à ce que certains critiques mettaient en avant. J'avais lu aussi quelque chose qui me paraissait intéressant. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, j'avais lu ça dans un article qui disait que en fait leur démarche artistique consistait à cacher un monument de telle sorte que quand il était révélé à nouveau quelques semaines plus tard, les touristes avaient un nouveau regard et redécouvraient le monument, en voyant à nouveau des détails qu'on ne voyait pas forcément en passant à côté. Voilà, et puis le fait que ce soit une œuvre d'art éphémère, je trouve, donne encore plus de mystère et de fascination à cet événement.
Vous avez 1 minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 2. Vous avez 1 minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir.
Mais les vacances se terminent dans 48 heures. Alors, dernier moment de temps libre pour nos enfants qui, arrivés à l'adolescence, raffolent de la frénésie des villes et fuient la tranquillité de la campagne. Mais les ados des champs s'ennuient-ils plus que les ados des villes? Dans la région de Toulouse, Mathieu Perrault et David Salmon ont fait le match.
Ils vivent dans des environnements très différents et sont heureux dans leur vie d'adolescent. À gauche, Léo, 16 ans, habite dans une grande ville, Toulouse. À droite, Valentin, 15 ans, réside à Saint-Sardos, un petit village d'à peine 1200 habitants. Nous les avons suivis le temps d'une après-midi. Pour Léo, elle commence dans le métro, direction le centre de Toulouse, avec son ami Fodil.
L'avantage, c'est qu'on a vraiment, il y a tout. On peut aller au cinéma, on peut aller manger, il y a des bars, il y a plein de restaurants.
Ce mercredi, pour ses deux copains, ce sera donc cinéma. Au même moment, à 50 km de là, Valentin démarre sa moto. La clé de son autonomie. Il doit rejoindre ses amis au stade municipal, à 3 minutes de son domicile.
C'est tout le temps ouvert, il y a tout qui est ouvert. Et voilà, c'est ça qui est chouette ici, c'est que tout est ouvert.
Des infrastructures accessibles et gratuites. 40 minutes de rugby pour commencer l'après-midi. Avant d'aller retrouver d'autres amis du village un peu plus loin pour un match de foot improvisé. Ici, en dehors du sport, il y a peu d'activités, mais cela convient très bien à Valentin.
Une grande ville, ça peut être intéressant pour visiter et tout, mais après, y vivre, je sais pas, il y a la pollution sonore, la pollution, enfin, ça a l'air pas terrible. Du coup, voilà, moi j'aime bien ici, c'est paisible.
Un cadre bucolique dans lequel le réseau mobile est 5 fois moins rapide que dans la grande ville. Pour Léo,
ah ouais, stylé.
Le citadin, ce serait difficile de vivre aujourd'hui sans un smartphone parfaitement connecté.
Tout le temps, quand je suis dans les transports, quand je suis au lycée, quand on a une heure de trop, enfin, je suis tout le temps dessus. Des fois, c'est des jeux. Après, il y a beaucoup de réseaux sociaux aussi. Instagram et Snapchat surtout.
En moyenne, les ados français passent plus de 3 heures par jour sur leur portable. Dans l'appartement familial, Léo a sa chambre et il y passe du temps, car il y a aussi les jeux vidéo. Ils sont présents aussi chez Valentin, mais dans le salon de la maison. C'est là qu'il joue de temps en temps avec Louis, son meilleur ami. C'est là aussi qu'il fait ses devoirs le plus souvent.
Je ne suis pas trop dans ma chambre. Je suis plus en bas. Voilà. Je vagabonde.
Et il y retrouve régulièrement toute sa famille pour des jeux de société, sans y être forcé.
Parfois, il y a des enfants qui ne s'entendent pas avec leurs parents. Et nous, ça va, on est assez soudés. Et ça, c'est cool.
Soudés, la famille de Léo l'est aussi. Il faut aimer ses ados pour les emmener à l'entraînement de foot 2 fois par semaine, malgré les bouchons.
Mercredi dernier, il y avait eu des incidents sur la rocade, on a mis 1h15.
Le prix, pour que Léo puisse se défouler. Il est 21h30, à Saint-Sardos, Valentin, lui, est déjà couché.
Vous avez 1 minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir.
Mais les vacances se terminent dans 48 heures. Alors, dernier moment de temps libre pour nos enfants qui, arrivés à l'adolescence, raffolent de la frénésie des villes et fuient la tranquillité de la campagne. Mais les ados des champs s'ennuient-ils plus que les ados des villes? Dans la région de Toulouse, Mathieu Perrault et David Salmon ont fait le match.
Ils vivent dans des environnements très différents et sont heureux dans leur vie d'adolescent. À gauche, Léo, 16 ans, habite dans une grande ville, Toulouse. À droite, Valentin, 15 ans, réside à Saint-Sardos, un petit village d'à peine 1200 habitants. Nous les avons suivis le temps d'une après-midi. Pour Léo, elle commence dans le métro, direction le centre de Toulouse, avec son ami Fodil.
L'avantage, c'est qu'on a vraiment, il y a tout. On peut aller au cinéma, on peut aller manger, il y a des bars, il y a plein de restaurants.
Ce mercredi, pour ses deux copains, ce sera donc cinéma. Au même moment, à 50 km de là, Valentin démarre sa moto. La clé de son autonomie. Il doit rejoindre ses amis au stade municipal, à 3 minutes de son domicile.
C'est tout le temps ouvert, il y a tout qui est ouvert. Et voilà, c'est ça qui est chouette ici, c'est que tout est ouvert.
Des infrastructures accessibles et gratuites. 40 minutes de rugby pour commencer l'après-midi. Avant d'aller retrouver d'autres amis du village un peu plus loin pour un match de foot improvisé. Ici, en dehors du sport, il y a peu d'activités, mais cela convient très bien à Valentin.
Une grande ville, ça peut être intéressant pour visiter et tout, mais après, y vivre, je sais pas, il y a la pollution sonore, la pollution, enfin, ça a l'air pas terrible. Du coup, voilà, moi j'aime bien ici, c'est paisible.
Un cadre bucolique dans lequel le réseau mobile est 5 fois moins rapide que dans la grande ville. Pour Léo,
ah ouais, stylé.
Le citadin, ce serait difficile de vivre aujourd'hui sans un smartphone parfaitement connecté.
Tout le temps, quand je suis dans les transports, quand je suis au lycée, quand on a une heure de trou, enfin, je suis tout le temps dessus. Des fois, c'est des jeux. Après, il y a beaucoup de réseaux sociaux aussi. Instagram et Snapchat surtout.
En moyenne, les ados français passent plus de 3 heures par jour sur leur portable. Dans l'appartement familial, Léo a sa chambre et il y passe du temps, car il y a aussi les jeux vidéo. Ils sont présents aussi chez Valentin, mais dans le salon de la maison. C'est là qu'il joue de temps en temps avec Louis, son meilleur ami. C'est là aussi qu'il fait ses devoirs le plus souvent.
Je ne suis pas trop dans ma chambre. Je suis plus en bas. Voilà. Je vagabonde.
Et il y retrouve régulièrement toute sa famille pour des jeux de société, sans y être forcé.
Parfois, il y a des enfants qui ne s'entendent pas avec leurs parents. Et nous, ça va, on est assez soudés. Et ça, c'est cool.
Soudée, la famille de Léo l'est aussi. Il faut aimer ses ados pour les emmener à l'entraînement de foot 2 fois par semaine, malgré les bouchons.
Mercredi dernier, il y avait eu des incidents sur la rocade, on a mis 1h15.
Le prix pour que Léo puisse se défouler. Il est 21h30, à Saint-Sardos, Valentin, lui, est déjà couché.
Vous avez 1 minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 3. Vous avez 1 minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir.
Je suis étudiante en architecture, j'ai 21 ans et je suis intéressée depuis très longtemps par le patrimoine et je vais vous parler un petit peu d'Urbex et de sa pratique en France en tout cas. En France, il y a énormément de passionnés du patrimoine, surtout de la jeune génération. C'est une pratique qui a vraiment proliféré ces derniers temps. Et l'urbex, donc, ça consiste à visiter des bâtiments abandonnés sans les vandaliser ou avoir quelconque geste envers le bâtiment qui participerait à sa destruction. Le but de l'urbex, c'est vraiment s'imprégner des lieux, faire des photographies pour marquer un instant T et voilà, sauvegarder un petit peu la mémoire du lieu tel qu'il est à l'instant où on le visite. Et c'est vraiment très différent du coup du vandalisme ou des gens, des squatteurs ou des gens qui vraiment viennent dans le bâtiment pour le saccager, le détruire ou prendre des objets, le taguer. Voilà, l'urbex, ça vraiment, quand on en fait, on y va. Si on touche des objets, on les remet à leur place initiale. Le but est vraiment pas de détruire le bâtiment. Le premier urbex que j'ai fait, je l'ai fait il y a peu de temps, dans un ancien château au nord de l'Île-de-France. C'est un château du XVIIe siècle qui a été complètement détruit, mais il reste encore tous les sous-sols. Et quelques salles qui sont restées intactes, mais qui sont complètement vides. C'est vraiment des pierres à moitié tombées. Certaines salles étaient trop dangereuses et on n'a pas pu y accéder parce que la structure du bâtiment faisait que on voyait très bien que si une pierre tombait, la salle s'écroulait. Donc c'était pas très malin de notre part de s'y aventurer. Donc voilà, on a pu faire des photographies, s'imprégner du lieu, découvrir son histoire aussi, parce que c'est ça aussi l'urbex, c'est découvrir l'histoire du lieu dans lequel on va. Et puis voilà, c'était une chouette expérience.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir.
Je suis étudiante en architecture, j'ai 21 ans et je suis intéressée depuis très longtemps par le patrimoine et je vais vous parler un petit peu d'urbex et de sa pratique en France en tout cas. En France, il y a énormément de passionnés du patrimoine, surtout de la jeune génération. C'est une pratique qui a vraiment proliféré ces derniers temps et l'urbex, donc, ça consiste à visiter des bâtiments abandonnés sans les vandaliser ou avoir quelconque geste envers le bâtiment qui participerait à sa destruction. Le but de l'urbex, c'est vraiment s'imprégner des lieux, faire des photographies pour marquer un instant T et voilà, sauvegarder un petit peu la mémoire du lieu tel qu'il est à l'instant où on le visite. Et c'est vraiment très différent du coup du vandalisme ou des gens, des squatteurs ou des gens qui vraiment viennent dans le bâtiment pour le saccager, le détruire, ou prendre des objets, le taguer. Voilà, l'urbex, ça vraiment, quand on en fait, on y va. Si on touche des objets, on les remet à leur place initiale. Le but est vraiment pas de détruire le bâtiment. Le premier urbex que j'ai fait, je l'ai fait il y a peu de temps, dans un ancien château au nord de l'Île-de-France. C'est un château du XVIIe siècle qui a été complètement détruit, mais il reste encore tous les sous-sols. Et quelques salles qui sont restées intactes, mais qui sont complètement vides. C'est vraiment des pierres à moitié tombées. Certaines salles étaient trop dangereuses et on n'a pas pu y accéder parce que la structure du bâtiment faisait que on voyait très bien que si une pierre tombait, la salle s'écroulait. Donc c'était pas très malin de notre part de s'y aventurer. Donc voilà, on a pu faire des photographies, s'imprégner du lieu, découvrir son histoire aussi, parce que c'est ça aussi l'urbex, c'est découvrir l'histoire du lieu dans lequel on va. Et puis voilà, c'était une chouette expérience.
Vous avez une minute. minutes à votre disposition. Finissez le devoir.
Fin de l'épreuve de compréhension orale. Rendez vos devoirs au professeur.